Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Emmanuel Macron a demandé d'amplifier la lutte contre le trafic de drogue lors d'une réunion d'urgence à l'Élysée organisée après plusieurs faits criminels ces derniers jours, dont l'assassinat du frère d'un militant écologiste à Marseille. Sébastien Lecornu, lui, appelle à l'unité nationale contre ce fléau et considère qu'il faut lutter contre la drogue avec les mêmes moyens qu'on utilise contre le terrorisme. Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, radioorient.com et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Un jeune Marseillais de 20 ans, Mehdi, a donc été assassiné par des trafiquants de drogue. Son seul tort, être le jeune frère d'Amine Kessassi, militant écologiste engagé contre le narcotrafic. Pour Laurent Nunez, l'assassinat de Mehdi Kessassi est un crime d'intimidation et constitue un point de bascule. Son frère Amine a écrit « Je ne me tairai pas ». Alors, la France est-elle en voie de mexicanisation, comme l'avait affirmé Bruno Retailleau en novembre 2024? La loi pour lutter contre le narcotrafic avec la création d'un nouveau parquet dédié sera-t-elle suffisante? D'abord, Henri, pourquoi l'assassinat de Mehdi Kessassi est-il un point de bascule? Le gouvernement a parlé de crime d'intimidation et ça, c'est inédit.
Oui, c'est inédit. Crime d'intimidation, crime d'avertissement, ça veut dire que sciemment est frappé, est abattu quelqu'un qui n'a lui-même rien à voir avec les trafics, qui n'est pas un délinquant, qui n'a pas de casier, qui est même un jeune qui se préparait à passer le concours pour devenir policier. C'est vraiment, il est frappé parce que on veut, les criminels, la mafia veut adresser clairement un message à son frère, évidemment, militant reconnu, Amine Kessassi, qui vraiment, lui, est engagé dans la prévention, la lutte contre les trafics de drogue. Il veut en quelque sorte assainir, en tout cas vraiment détourner les jeunes de son quartier à Marseille et plus largement de ce monde vraiment extrêmement criminel et dangereux et délétère pour cette jeunesse. Et donc c'est une façon de dire aux grands frères Amine, de dire à tous les jeunes, mais de dire à tout le monde au-delà de ça, aux lanceurs d'alerte de manière générale, aux journalistes, aux magistrats, aux policiers intimidés pour, en gros, ne vous mêlez pas de nos affaires. Jusque-là, pourquoi est-ce que c'est inédit? Parce que c'est vrai que jusque-là, les victimes, alors c'est peut-être un peu cynique de dire ça, mais c'était des règlements de compte entre les bandes, entre les dealers. Alors, ce qui était déjà totalement effrayant, c'est qu'ils étaient de plus en plus jeunes, hein, puisque maintenant, et comme à Grenoble encore récemment, ce sont de jeunes ados, 13 ans, 14 ans, qui sont frappés, qui sont abattus, qui sont blessés parce que ils sont recrutés comme ça par les grands dealers et que donc ils servent aux gays, ils servent aux livraisons. Mais là, vraiment, on a ce tournant. Le crime d'intimidation. Et donc la classe politique, c'est vrai, se lève, à commencer par le chef de l'État. C'est pas la première fois, mais là, vraiment, ça prend une dimension inédite. Il y a d'ailleurs eu cette marche blanche, en réalité un grand rassemblement à Marseille, mais également avec, en communion de pensée, pourrait-on dire, des gestes dans tout le pays, avec un gros affichage des responsables politiques et de tous ceux qui sont engagés dans cette lutte, mais également des citoyens, des Français, des gens qui veulent dire non à ce fléau qui devient un fléau national.
Henri Vernet, on a vu émerger une nouvelle organisation criminelle, la DZ Mafia. Les crimes liés au trafic de drogue se sont multipliés. Le terme de narcomicide a été inventé. Hyperviolence, risque de corruption. Est-ce que la France peut ressembler à ce qu'on a vu au Mexique, pays gangréné par le narcotrafic?
Alors, bon, moi, restons humbles, je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais quand je vois ce que fait notre journal, Le Parisien, qui travaille extrêmement, de manière extrêmement serrée et suivie sur ces questions-là, et qu'on écoute les experts interrogés, disons que quand on parle de mexicanisation, terme qui a d'ailleurs été employé pour frapper les esprits par l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, le Mexique, ce sont quand même des cartels, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, énorme, surpuissant, souvent plus puissant que l'État lui-même, et qui en fait finissent d'ailleurs par contrôler ces États, au point que, en quelque sorte, le gouvernement, les grandes administrations, même les forces de police, tout cela est presque un peu fantoche, presque un paravent. La France, clairement, n'en est pas là. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que notre pays, il ressemble à ce qu'a vécu l'Italie dans les années 70, 80, 90, où la mafia était toute puissante, notamment organisée autour du trafic de drogue, et où il a fallu que ce pays s'adapte très vite et bâtisse un arsenal législatif, policier, enquêteur, contre cette forme de criminalité. La France, d'ailleurs, malheureusement, on peut le dire, hein, elle n'est vraiment pas seule dans ce cas de gangrène quand même, parce que oui, ce terme qui a été employé, il est pertinent, parce que ça pénètre partout, dans tous les pans, et ben, le vivent aussi nos voisins, les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a également eu des crimes d'intimidation. Un journaliste a été abattu parce qu'il dénonçait, il faisait un petit peu le lanceur d'alerte sur ces thèmes-là. Un avocat également, donc on a vu ça. La Belgique est en proie au même problème. L'Italie donc a le combat depuis très longtemps, donc est plus avancée que nous. Donc c'est plutôt ça le modèle. Le mot serait un peu étrange, encore que c'est vrai que ce parquet dont vous parlez, cette nouvelle loi donc pour lutter contre les trafics de stupéfiants, et le terme d'ailleurs, hein, tout ce qui est lié à narco, donc un parquet vraiment spécialisé dessus, ça c'est sur le modèle de ce qui s'est passé en Italie il y a donc déjà bien longtemps. Pourquoi ? Bah parce que l'idée, c'est de gagner en efficacité, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette déperdition parfois de juridiction, de traitement des dossiers qui prend plus de temps. Là, en centralisant, comme ça a été le cas avec succès pour le parquet national financier, également pour le parquet national antiterroriste, on gagne en efficacité. C'est un meilleur moyen de coordonner les actions judiciaires, les enquêtes et évidemment le travail avec les policiers, avec les gendarmes, avec les services spécialisés.
Alors, la grande spécificité de ces dernières années, Henri, c'est que le trafic de drogue ne touche plus seulement les grandes agglomérations comme Marseille, Lyon et la région parisienne. Désormais, ce sont les villes moyennes qui ont des points de deal. Des enquêtes montrent aussi que ce trafic a lieu en milieu rural. Il y a une véritable offensive des trafiquants pour amplifier ce marché et gagner encore plus d'argent.
Oui, bien sûr. Bah déjà, quand vous parlez d'argent, il faut le savoir, hein, le chiffre d'affaires de la drogue, du trafic de stupéfiants en France, c'est de l'ordre de 6 à 7 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que c'est énorme. Les flux qui rentrent chaque jour dans notre pays par les ports, principalement, qui sont de véritables passoires à cet égard. Je pense qu'on y reviendra parce que là, ça pose la question justement de cette corruption qui gagne du terrain dans notre pays. Ça passe tous les jours. Le nombre de personnes, presque on pourrait dire de travailleurs, du trafic, de trafiquants, c'est 250 000 personnes qui sont concernées en France. Donc c'est évidemment énormissime. Je lisais que le chiffre d'affaires d'un point de deal, les fameux points de deal contre lesquels il y a eu ces opérations PlaceNet à un moment, ça peut atteindre les 90 000 euros aisément. Donc on voit bien que cet argent est énorme, il coule à flot, et donc évidemment ça pousse les criminels à se répandre partout, pour plein de raisons. D'abord parce que les consommateurs eux-mêmes sont partout, c'est-à-dire que le temps où notamment la cocaïne était réservée à une espèce d'élite de jet set, ça c'était les années 1980, tout ça s'est terminé depuis longtemps. D'abord parce que les prix ont extrêmement diminué, ils ont été divisés par 3 ou 4 ces 20 dernières années.
Donc, en raison de la surproduction
plusieurs raisons, oui, la surproduction. Il faut dire aussi que les États-Unis notamment sont devenus un mât. D'abord parce qu'il y a eu la lutte contre ces trafics aux États-Unis, mais surtout parce qu'en réalité, ils ont affaire eux-mêmes à une nouvelle drogue, hein, le fentanyl, qui, elle, vient d'Asie et non plus d'Amérique latine, et que donc ça a détourné un peu les consommateurs, et d'où cet afflux, cette offensive des narcotrafiquants sur l'Europe et singulièrement sur la France. Donc oui, il y a ça, c'est vrai, un afflux de production, une surproduction, comme pourrait-on dire. Donc là, c'est la loi du marché, tout simplement. Également parce que les comportements font ça. De toute façon, la France est une société, malheureusement, où le recours, alors aux stupéfiants, évidemment aux drogues, hein, cocaïne, cannabis et autres, mais il y a ecstasy, la France, c'est pas anodin de dire ça, c'est quand même un pays record en matière de consommation d'antidépresseurs, de produits de ce genre. Donc c'est vrai que de toute façon, il y a une espèce d'addiction de notre société et qu'on trouve absolument dans tous les milieux, dans toutes les couches. Donc il y a ça, les trafiquants, ils vont trouver dans les milieux périurbains, dans les villes moyennes, mais même dans le milieu rural, comme vous le dites. Et puis il y a une autre raison, tout simplement, qui est celle de bandits, hein, c'est-à-dire de gens qui vont pouvoir installer, par exemple, un labo, un stockage, voire en effet un labo de transformation, des centres de stockage de leurs produits, des fermes à cannabis, il y a ceci. Et ça, évidemment, on le fait dans des zones rurales qui sont beaucoup moins densifiées par le quadrillage policier ou de gendarmerie surtout. Et ça, malheureusement, en France, on parle souvent des déserts médicaux, mais il y a aussi des déserts de police et de gendarmerie.
Et qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration d'Emmanuel Macron qui a mis en cause la responsabilité des bourgeois des centres-villes qui déplorent la mort des victimes du narcotrafic et qui en même temps consomment de la drogue.
Mais oui, c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire c'est tellement répandu ce fléau qu'on peut être à la fois, on pleure, on déplore, on râle quand il y a des morts comme ça, on se dit, oh mon Dieu, mais quelle horreur, et puis qu'en étant soi-même consommateur, on oublie, c'est un million, c'est plus d'un million de Français qui consomment quotidiennement des drogues, 1,5 million quand on parle de cannabis, et puis si on prend vraiment les usagers qui sont purement occasionnels, là je parle des réguliers, ça va encore plus loin. Donc vous voyez, c'est un adulte sur 10 qui est concerné. Eh bien, les mêmes portent, oui, une part de responsabilité, dans la mesure où s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de trafiquants, en tout cas, il y en aurait beaucoup moins. Mais c'était déjà Éric Dupond-Moretti, quand il était ministre de la Justice, qui avait dit ça, que dans chaque gramme de coke consommé, il y avait du sang sur les mains. Et donc, des consommateurs, quelque part, sa formule à lui aussi était assez brutale, il y a du sang sur les mains. Et donc, les bourgeois des centres-villes qui encouragent ça, qui ont une co-responsabilité, oui, c'est pas faux. Et d'ailleurs, Hamid Kessassi lui-même a employé cette image pour rappeler chacun à ses responsabilités.
Henri Vernet, la Commission nationale des comptes de campagne et de financement politique s'inquiète des risques de corruption liés au narcotrafic qui pourraient peser sur les scrutins et les maires une fois élus. On est à quelques semaines des élections municipales. C'est un risque avéré.
Oui, il est difficile à mesurer. D'ailleurs, le président de la commission le dit lui-même. Néanmoins, il existe, il est évident. De toute façon, on voit bien, les maires, ils sont en première ligne. Ils ont des points de deal en bas de chez eux. Ils voient bien que, je faisais allusion à cette opération PlaceNet qui avait été lancée justement à Marseille il y a quelques temps, et aussi sous l'égide d'Emmanuel Macron, qui est vraiment, de ce côté-là, prend les choses assez à cœur. Eh bien, il se reconstitue très vite. J'entendais, par exemple, la maire d'Échirolles, près de Grenoble, qui expliquait ça, qu'elle avait fait par exemple évacuer, fermer un immeuble qui servait mais de point de deal connu de tout le monde, elle le fait fermer et quelques jours plus tard réapparaît son équivalent à quelques centaines de mètres. Et ça, mais tous les maires le vivent. Et donc évidemment, ils sont eux-mêmes sous pression parce que les trafiquants de drogue qui tiennent des quartiers entiers parfois, qu'est-ce qu'ils vont préférer? Un maire qui a plutôt dans l'esprit d'acheter un petit peu la paix des quartiers, dit-on, et donc de ne pas être trop actif sur ce domaine-là, ou au contraire, un maire ou une maire qui prend vraiment ce problème à bras-le-corps et qui va lutter contre les narcotrafics, évidemment, qui peuvent... Alors, comment est-ce qu'ils peuvent agir? Ils peuvent donner de l'argent pour la campagne, vous savez, des dons en nature, ça se voit pas beaucoup. Ils peuvent financer telle ou telle opération. Donc, c'est ça, la corruption. Et en effet, la commission des comptes de campagne a déjà annoncé qu'elle sera extrêmement vigilante sur tous ces points. D'ailleurs, elle va faire remonter des opérations avec TRACFIN, notamment des fiches de transparence pour pouvoir étudier de très près telle ou telle opération. Et c'est un risque, bien sûr, parce que les maires, ils n'ont pas forcément en plus tous les moyens de l'État et donc ils sont exposés. C'est une décision courageuse de résister à cela. Et là, encore une fois, le militant dont on a parlé, Hamid Kessassi, dont le frère a été assassiné, c'est justement, lui, il est à Marseille, c'est justement l'un des points d'attention qu'il souligne.
Henri Vernet, de nombreux habitants se demandent pourquoi les dealers qui trafiquent en bas de chez eux peuvent le faire au vu et au su de tous sans être inquiétés. La police connaît les dealers, elle répertorie les points de deal qui disparaissent avant de renaître un peu plus loin. On n'arrive pas à comprendre comment c'est possible quand on est confronté à ça tous les jours.
Mais c'est possible à cause des problèmes de moyens qu'on a évoqués. C'est-à-dire que bien sûr que l'État prend ça très au sérieux. Je pense que là, on franchit une marche et que donc ça va être encore plus fort. Disons que pendant longtemps, c'était un peu absent du débat politique, finalement, ce problème de la drogue. On pensait que c'était réservé à d'autres pays. Ou à un moment, les responsables politiques français se sont dit « Oui, mais ça, c'est le problème de l'immigration. C'est très lié au quartier. » ou que sais-je encore. Et donc, il y a eu une espèce de, non pas de déni, mais voilà, on a vécu avec ça. Là, non, maintenant, la prise de conscience est telle que c'est vraiment ça devrait venir, en tout cas, dans le débat politique. On l'a dit, hein, très clairement, ce sera un sujet important, un thème important de la future campagne municipale, et donc des moyens supplémentaires vont être mis. Néanmoins, la loi, elle fait quoi? Elle fait que vous fermez un point de deal avec l'opération PlaceNet. D'accord, mais les gens que vous interpellez, très souvent, vous savez, les petits dealers, ou alors les chauffeurs, les guetteurs, etc. Par exemple, le petit sachet de shit, ils l'ont pas sur eux. Ils l'ont planqué dans un buisson. Je lisais notamment dans Le Parisien que sont beaucoup utilisés, vous savez, les sachets qui servent à ramasser les crottes des chiens, et souvent c'est là-dedans que sont planquées les barrettes de shit, et donc hop, ils sont comme ça dans les fourrés. Donc ce que je veux dire, c'est que des gens qui sont arrêtés, ils vont pas forcément, du fait de nos lois, ils vont pas forcément passer beaucoup de temps en prison, et que en plus le recrutement est tel, il y a tellement d'argent là-dedans, que si vous en avez un qui est embastillé pendant quelques jours, vous recrutez quelqu'un d'autre. Donc pour être un petit peu brutal, il y en a un qui est arrêté, 10 qui sont recrutés, et notamment d'ailleurs, de plus en plus, les enquêteurs s'en rendent compte, vous savez, dans les migrants, notamment les migrants isolés, parce que ce sont des proies faciles. Ils n'ont pas de domicile, ils n'ont pas d'argent. Pour eux, être recrutés par une petite tête de réseau très très modeste, pour eux, c'est vraiment une façon de survivre.
Alors, la question des prisons est très importante. Gérald Darmanin a décidé de transférer vers des prisons ultra sécurisées les chefs de ces réseaux criminels. Le trafic s'organise notamment depuis les prisons.
Oui, très clairement. Et d'ailleurs, vous parlez de cette décision de Gérald Darmanin qui est en cours d'exécution, parce que tous les quartiers ne sont pas encore construits, ne sont pas encore opérationnels. Et il y a également une autre opération qui vient d'être lancée ces tout derniers jours, c'est l'opération Zéro Portable en prison. Mais quand vous entendez ça, on est quand même extrêmement surpris, quoi. Ah bon, parce qu'on pouvait avoir des portables en prison? Eh ben oui, parce que par mille moyens, à commencer d'ailleurs par la corruption, tout simplement, qui permet de faire rentrer des portables en prison, et puis l'ingéniosité de ces délinquants, de ces criminels, qui est sans limite. Oui, il y a beaucoup de portables en prison. Et par rapport à ce, et notamment donc au meurtre de Mehdi Kessassi, ce qui était vraiment sidérant, c'était la grande enquête que Le Parisien y a consacrée sur la piste des commanditaires. Et l'un des principaux suspects, c'est justement quelqu'un qui est en prison, un jeune de 30-31 ans, qui est en prison depuis plusieurs années, qui a d'ailleurs été en plus transféré entre différents centres pénitentiaires, et qui est vraiment suspecté d'avoir commandité, organisé ce crime, alors que normalement il devrait pas en avoir les moyens puisqu'il est emprisonné. Et c'est en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est l'une des têtes de réseau de cette fameuse DZ Mafia, vraiment qui a une emprise tentaculaire sur Marseille. Et donc comment est-ce qu'il aurait pu faire ça, sinon avec des complicités incroyables, des portables utilisés alors que c'est totalement interdit et que d'ailleurs l'enquête semblerait montrer qu'il n'en a pas eu. Donc il devait être transféré justement dans un de ces nouveaux quartiers. Simplement, il n'était pas encore achevé et il y avait aussi la volonté de la part des autorités de ne pas regrouper au même endroit trop de narcotrafiquants parce que justement ce serait créé une nouvelle zone de péril. Donc ça, c'est vraiment l'un des principaux points noirs des prisons, qui est favorisé, il faut le dire aussi, je l'ai évoqué, par les problèmes de corruption qui forcément existent, parce que dans le milieu carcéral, il y a beaucoup, beaucoup de monde d'un côté, et puis de l'autre, il y a beaucoup, beaucoup, il y a énormément d'argent. Donc, évidemment, on ne pourrait jamais éviter qu'il y ait une brebis galeuse. Et le deuxième grand danger des prisons, et ça, j'avais été surpris d'entendre notamment Roberto Saviano, vous savez, l'écrivain, lanceur d'alerte anti-mafia depuis de longues années, presque des décennies, italien, et lui qui explique comment en prison, justement, c'est un milieu de recrutement extrêmement important, parce que la vie en prison, par définition, elle est rude, elle est difficile, vous avez besoin de quelques moyens pour y survivre, et si vous êtes un délinquant, j'allais dire ordinaire, jeune, sans famille, qu'est-ce qui va vous fournir quelques subsides? Ce sont justement les caïds qui sont emprisonnés avec vous, et ça, c'est une façon de recruter des jeunes. Ils rentrent, ils sont pas forcément liés au trafic de drogue, et quand ils sortent de prison, comme ce sont des petits condamnés en général, c'est peu de temps après, ils sont ils rentrent de plein pied dans le narcotrafic.
Henri Vernet, à gauche, certains estiment que pour assécher le marché, on devrait autoriser la vente de drogues dites douces. Et puis, la droite, notamment, souhaiterait pouvoir sanctionner les consommateurs. J'entendais Christian Estrosi dire que les caméras de la ville de Nice filmaient les plaques d'immatriculation des clients du narcotrafic, mais qu'il ne pouvait pas s'en servir.
Alors, il y a beaucoup d'aspects dans votre question. Sur le premier point, bah oui, en France, c'est un vieux débat. Ça fait maintenant, je dirais, une bonne vingtaine d'années qu'on s'interroge, peut-être même plus d'ailleurs, qu'on s'interroge sur cette question, est-ce qu'il faut dépénaliser ou pas, comme l'ont fait de nombreux pays. Mais par exemple, si on prend juste à côté de nous les Pays-Bas, ça fait très longtemps qu'aux Pays-Bas, la consommation, disons, de drogue douce, de cannabis, bon, dépénalisée. Est-ce que pour autant, les trafics ont disparu dans ce pays qui est tout proche du nôtre? Absolument pas. Et en plus, ils sont extrêmement violents. Je l'ai dit tout à l'heure, dans ce pays également, il y a eu des crimes d'avertissement, justement. Donc, le narco, si on peut dire, il est toujours aussi maléfique. Donc, c'est pas un exemple qui est très probant. Après, certains, vraiment experts, un très bon connaisseur du dossier, bon, et outre les politiques, alors beaucoup à gauche, pas toute la gauche, mais c'est vrai, notamment chez les écolos, dans d'autres partis, prennent cette solution, bah, avec un argument, d'ailleurs, qui est tout à fait audible, hein, qui est de dire, mais d'abord, ça veut dire que ce serait sous contrôle de l'État. Donc, a priori, ça veut dire que la consommation serait quand même assez régulée, comme elle l'est pour d'autres produits nocifs. Et puis surtout, ça voudrait dire que ça amènerait des recettes fiscales pour l'État. Et l'État, les autorités, pourraient consacrer cet argent à la lutte contre la drogue, dont on a vu justement que l'une des faiblesses, c'est le manque de moyens. Donc, ce ne serait pas illogique. Donc, disons que, oui, cette solution, elle doit rester à l'étude. Pour l'instant, ce n'est pas tranché. Certainement, ça fera l'objet de nouveaux débats.
Et alors pour la droite qui veut sanctionner les consommateurs?
C'est une piste aussi. Alors visiblement, cette piste-là, elle est quand même assez relancée avec les propos d'Emmanuel Macron, hein, justement, donc sur les bourgeois des centres-villes qui sont responsable. Oui, mais ça aussi, ça existe d'ailleurs. Les amendes, par exemple, ont été renforcées ces dernières années. Je crois qu'aujourd'hui, si vous êtes consommateur, vous êtes pris, vous encourez une amende de 150 euros. Alors, c'est à la fois beaucoup et rien du tout, en réalité, par rapport aux dommages, par rapport à tout ce que cela crée comme dégâts, comme morts. Qu'est-ce que c'est que 150 euros quand, en plus, vous avez les moyens de vous payer régulièrement de la drogue? C'est pas ça qui va vous arrêter, donc, d'une part. Et en plus, je crois que le taux de recouvrement de telles amendes est très faible. Il est de l'ordre d'un tiers ou de 30%, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que si vraiment on s'engageait sur cette piste, la logique serait à ce moment-là de pénaliser, en tout cas de sanctionner de manière plus forte. Après, est-ce que, oui, bien sûr, frapper les consommateurs, taper au portefeuille, ça peut être une piste. Là aussi, malheureusement, on montre que c'est pas extrêmement dissuasif. Et surtout, il faudrait pas, et c'est peut-être un peu ça le danger des propos du président, il faut surtout pas quand même diluer trop les responsabilités. La première responsabilité dans la lutte contre le narcotrafic, elle est vraiment à l'État. Elle est vraiment aux forces de police, à une politique qui soit enfin efficace. Personne n'a vaincu les trafics de drogue, mais quand même, il faut être efficace. Et puis, vous citiez l'exemple des caméras de Christian Estrosi, le maire de Nice. Certes, mais attention, c'est comme dans tout dans nos sociétés démocratiques. Vous savez, c'est comme en matière de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que la question, elle est toujours de savoir où on place le curseur entre ce qui va devenir trop intrusif dans les libertés publiques, les libertés individuelles, auxquelles globalement nous sommes quand même tous très attachés, et l'efficacité de la lutte.
Dernière question, Henri Vernet. On a parlé de l'aspect judiciaire, policier, mais il y a aussi l'aspect financier. Est-ce que la France, est-ce que l'État français a les moyens aussi de lutter contre le blanchiment de l'argent de la drogue? Il faut beaucoup de moyens pour ça.
Oui, il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens d'enquête, hein, parce que c'est justement les maires, ils peuvent voir ça, et évidemment les autorités plus largement, plus centralisées. Ils voient bien que, par exemple, il y a en France tout un tas de sociétés, d'entreprises, beaucoup d'ailleurs dans le bâtiment, dans la restauration, qui sont en réalité des sociétés purement écrans, qui sont faites là pour blanchir dans les mois, dans les années qui suivent, l'argent de de la drogue. Mais ça, il faut les moyens de le repérer. Il faut les moyens après de monter des dossiers, de prouver et donc vraiment d'entamer des actions qui puissent aboutir. Donc tout ça, bah oui, ça requiert des moyens d'investigation. Encore une fois, ça veut dire qu'il faut des magistrats, très clairement. Dans notre pays, il faut davantage de magistrats. C'était d'ailleurs l'un des objets de la visite des deux ministres intérieurs, Laurent Nunez et Justice, Gérald Darmanin, à Marseille. Et ce sera encore celle du président quand il ira lui-même de nouveau à la mi-décembre à Marseille, Emmanuel Macron. C'est vraiment cette idée de montrer que, bah oui, on a quand même cette volonté de mettre en place davantage de magistrats, davantage de policiers, et donc, vous le disiez, de moyens. Et la lutte financière, mais c'est aussi la coopération avec les autres. On l'a bien vu, hein, tout ça, ça passe par les ports, par les frontières, et puis d'ailleurs aussi dans les moyens d'enquête qui nécessitent, là encore, du personnel et donc des dépenses, bah c'est aussi lutter contre la corruption. Hein. On parlait des ports, mais dans les ports français, on sait très bien que la corruption, elle est partout. Ce qui fait que, d'ailleurs, des affaires éclatent assez régulièrement, hein, Marseille, au Havre, etc. Bon. Et pourquoi ? Parce que ce sont les points névralgiques d'entrée. Mais là, c'est colossal. Cette guerre-là, la France, elle ne va pas la gagner seule. De même que l'Italie a dû faire appel à beaucoup de coopération en matière policière pour arriver à résoudre ce problème. D'ailleurs, personne ne l'a résolu. Pas plus l'Italie complètement que les pays européens, que même les États-Unis qui vont au marteau-piqueur à la Trump pour essayer de cantonner les trafics qui pourraient venir du Venezuela, par exemple. Mais en réalité, personne n'a vraiment arrêté complètement. Personne n'a encore gagné la guerre contre la drogue.
C'est la fin de cet épisode de Coulisses politiques. Merci Henri Vernet. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. Retrouvons-nous sur Spotify, RadioOrient.com et nos réseaux sociaux. Merci.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.